Tu écoutes le podcast spécial école de Major Prépa, la référence des étudiants en prépa. Ne l'oublions pas, la finalité de ta prépa est bien d'intégrer une école. Let's go.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Major Prépa en partenariat avec Schema Business School. Je me trouve aujourd'hui avec Frédéric Meunier. Frédéric, bonjour, vous êtes professeur à Saint-Louis en classe préparatoire et vous enseignez la géopolitique et vous êtes également professeur affilié à Schema Business School. Nous allons donc évoquer ensemble pendant une dizaine de minutes la dissertation de géopolitique qui va intéresser très prochainement nos auditeurs avec du coup une première question, d'abord d'ordre général. Quels sont donc les grands enjeux de cette dissertation de géopolitique ?
Merci Dimitri. Alors bonjour à toutes, à tous. Je suis ravi d'être ici avec vous pour vous donner quelques conseils. Alors les enjeux de la dissertation de géopolitique. Alors, la dissertation de géopolitique, c'est d'abord une dissertation, c'est-à-dire un exercice qui vise à démontrer quelque chose, ça veut dire à poser une problématique en introduction et à y répondre en conclusion. De manière générale, ce que je pourrais vous dire, c'est que la dissertation est basée finalement un petit peu sur la fiction cartésienne qu'expose Descartes dans le discours de la méthode, c'est-à-dire que lorsqu'on est face à un problème compliqué, et tous les sujets qui sont posés aux grandes écoles sont des problèmes très compliqués, des rivalités, des rapports de force entre les États-Unis et la Chine, par exemple, des questions de la géopolitique de l'alimentation, ou encore, par exemple, la nature, ou les problèmes, les contraintes liées à la construction européenne, etc. Ces questions sont toutes compliquées. Et Descartes nous dit que lorsqu'on est face à un problème compliqué, il faut le diviser en sous-problèmes, résoudre ces sous-problèmes pour pouvoir répondre à la question générale, comme s'il n'y avait pas d'interaction entre ces problèmes. Alors la dissertation fonctionne sur le même raisonnement, c'est-à-dire que face à un problème compliqué qui pose une question, la problématique, eh bien il faut diviser ce problème compliqué en sous-problèmes, ce sont les parties et les sous-parties, y répondre de manière argumentée afin, in fine, de pouvoir poser eh bien, une réponse à peu près argumentée en conclusion. Alors en géopolitique plus spécialement, la différence ou la spécificité de la géopolitique évidemment, c'est qu'on raisonne sur des problèmes liés à la puissance, c'est-à-dire à la capacité, dit Joseph Nye, la capacité d'une unité qui peut être un État, une entreprise, éventuellement des individus, des lobbies, l'opinion publique, eh bien à obtenir ce qu'elle souhaite. Hein. C'est la capacité, dit Nye, la capability to get what you want. Voilà comment il définit la puissance. Et tous les sujets que nous approchons en géopolitique, en histoire, géographie, géopolitique, eh bien envisage donc ces questions de rivalité, de rapport de force. Mais encore une fois, la dissertation est là pour poser un problème. Alors peut-être ça soulève une autre question qui est celle de l'introduction, qui est tout à fait importante dans ce dispositif. Il faut bien que les auditeurs comprennent que lorsqu'on est membre de jury, l'introduction est absolument cardinale pour plusieurs raisons. D'abord une raison toute bête, on voit l'écriture, on sait si on va souffrir ou pas dans les 15-20 minutes qui viennent et il faut vraiment soigner son écriture. C'est important l'introduction aussi parce que c'est la première prise de contact qu'a le correcteur avec la copie et on peut y déceler et donc au-delà d'écriture, évidemment, l'orthographe, le style, la manière d'approcher un sujet, bien sûr. Enfin, l'introduction est cardinale parce que c'est elle qui définit les termes du sujet. Et j'insiste là-dessus, une introduction qui est narrative, qui raconte, plutôt que de définir, eh bien, ne joue pas son rôle. L'introduction doit définir les termes qui sont sur tous les sujets de géopolitique, une ou des notions, rivalité, rapport de puissance, par exemple, géopolitique de la faim, à une période donnée en général, très souvent, ça se passe au XXe siècle, c'est le programme, et enfin sur un espace qui est à définir. Ainsi donc, eh bien, la bonne copie doit savoir définir notion, espace, période, et en malaxant en quelque sorte ces termes, eh bien, doit faire surgir un paradoxe qui interroge. C'est un problème à ce moment-là, formulé sous forme de questions directes ou indirectes, et ce problème étant complexe, eh bien, il appelle évidemment une annonce de plan. C'est ce qu'on appelle souvent la règle des 4 P. On présente le sujet, les termes. La présentation du sujet amène à soulever un paradoxe. Aristote dit que le philosophe, c'est celui qui sait s'étonner. Il faut savoir s'étonner face aux termes du sujet, bien sûr. Le paradoxe amène donc un questionnement, la problématique, 3e P. Et ce questionnement, eh bien, entraîne à une annonce de plan, c'est le 4e P. Voilà un petit peu les spécificités et donc les enjeux de la dissertation de géopolitique.
Bien, merci donc pour cette entrée en matière et on va maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors vous l'avez déjà fait effectivement avec l'introduction. On va donc passer à une autre question qui soulève aussi un des problèmes de cette discipline, c'est qu'on parle trivialement de géopolitique, mais il s'avère que la discipline se nomme histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain. On a donc trois dimensions finalement à intégrer dans cette dissertation et précisément comment les candidats doivent-ils s'en sortir avec ces trois approches complémentaires mais évidemment pas tout à fait identiques.
Oui, alors ça, c'est une autre question qui est tout à fait importante. Alors, vous avez absolument raison, les étudiants entre eux, nous les professeurs aussi, on parle de géopo sans cesse, mais la discipline a bien effectivement, elle comporte bien trois termes, histoire, géographie, géopolitique du monde contemporain, bien sûr. Et puis, en plus, on ne peut pas le nier, dans la géopolitique, dans ces analyses-là, on intègre des éléments d'économie, à certains moments parfois, de sociologie, peut-être de sciences politiques aussi. D'ailleurs, la discipline au lycée, qui vient d'être créée comme option assez importante, intègre des données de sciences politiques dans la géopolitique, ce qui n'est pas du tout étonnant au fond. Donc on est face à une discipline effectivement qui est, complexe, hein, puisqu'elle fait interagir, la complexus, dit Edgar Morin, c'est ce qui est tissé ensemble, et le monde effectivement est complexe, puisqu'il est tissé de relations spatiales, temporelles, et évidemment, et des relations de pouvoir au travers la géopo. Bref, ce que je conseille moi à mes étudiants, c'est que lorsqu'ils ont analysé le sujet au brouillon, et lorsqu'ils envisagent un peu la somme de connaissances qu'ils vont pouvoir monopoliser, il est important ensuite de se demander, en regardant l'intitulé du sujet qu'on a sous les yeux, eh bien de le passer au prisme des trois ou quatre dimensions de notre discipline. C'est de savoir se dire, sur tout sujet, n'ai-je pas oublié ou minoré la dimension historique d'abord ? Et on est très frappé lorsqu'on corrige les copies aujourd'hui que des sujets, par exemple, qui portent sur la mondialisation, commencent dans les années 80-90, mais semblent parfois oublier, paradoxalement, les années 90 pour se cantonner sur les quelques dernières années. Ou parfois, ont du mal à monopoliser du passé un peu lointain. Je pense notamment, pensons à l'Afrique notamment, il est impossible d'envisager l'Afrique d'aujourd'hui sans discuter du legs colonial ou au contraire des conditions de la décolonisation. Il est impensable de penser l'Inde, par exemple, sans penser à son système de caste qui est ancestral. Il est impensable aujourd'hui de penser la géopolitique de la Chine sans considérer comme toutes les élites chinoises qu'ils sont dans une sorte de revival, de retour de la Chine, hein, puisqu'elle était, je vous le rappelle, le premier PIB mondial, 30% du PIB mondial au XVIIIe siècle, et qu'au fond, l'entrée en révolution industrielle de l'Europe a signifié un déclin de la Chine. Pour les Chinois, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une émergence, mais d'une réémergence. Bref, se demander sur tout sujet comment l'histoire peut éclairer ce sujet. Deuxième chose, se demander sur tout sujet comment la géographie. Certains déterminants géographiques, par exemple, l'enclavement, l'ouverture, bien sûr, la proximité avec des routes commerciales, la géographie, c'est aussi le sous-sol, les ressources, bien sûr, les ressources du sous-sol, les ressources humaines, eh bien, sont des dimensions de nature à éclairer le sujet. Enfin, la géopolitique, qui est là-dessus, la question des rapports de puissance. Ces rapports de puissance vont du soft, l'attractivité, hein, jusqu'au hard, l'imposition de la force, par exemple, et se demander donc comment ils jouent sur cet espace à cette période. Enfin, ne pas négliger que dans la géopolitique, il y a des éléments de rapport de force économique. C'est toutes les questions liées aujourd'hui, soit des rivalités économiques, soit des questions de guerre économique. Ces quatre dimensions, surtout les trois premières bien sûr, on n'est pas en ESH, mais enfin l'économie n'est pas négligeable, doivent être intégrées dans la réflexion. Et encore une fois, il est important pour chaque candidat de poser le prisme de ces quatre dimensions sur le sujet en essayant de voir s'ils n'ont pas oublié ou minoré un de ces trois ou quatre aspects. C'est à mon avis le meilleur moyen d'essayer en quelque sorte de muscler sa dissertation et puis ensuite d'intégrer ces éléments dans le plan qu'ils vont développer à l'issue de l'analyse de sujet et dans le cadre de cette argumentation dont je parlais tout à l'heure, un petit peu cartésienne, hein, où on divise le problème en sous-problèmes.
On va maintenant aborder une autre dimension qu'on n'a pas encore évoquée de la dissertation, c'est l'intégration de l'actualité dans le sujet, ou en tout cas pas dans le sujet, mais plus précisément dans la dissertation, puisqu'en effet les sujets ne sont pas forcément corrélés à l'actualité. En revanche, il est souvent conseillé de s'inspirer, d'imprégner en fait sa copie de l'actualité. Donc la question est maintenant simple, que faire de l'actualité finalement dans sa copie de géopolitique ?
Alors là encore, c'est une question tout à fait importante. L'actualité, nos étudiants, au fond, la puisent, je crois, dans trois sources différentes. La première, c'est évidemment les cours d'histoire, géographie, géopolitique qui sont dévolus à ça. Mais en coup, il faut penser aussi que l'actualité, ils l'abordent à travers les langues vivantes. Puisqu'il y a un aspect civilisationnel en EC qui est particulièrement prononcé, et en langue vivante, alors évidemment en anglais, c'est la langue obligatoire, et puis ensuite dans l'autre langue vivante qui devient un atout, hein, bien sûr, il y a des éléments d'actualité qui sont dispensés pendant les deux ou trois ans de prépa. Et puis enfin, la troisième source, me semble-t-il, ce sont les lectures personnelles. Nous conseillons à tous nos étudiants de suivre la presse française et ou anglo-saxonne. C'est un bon moyen souvent, en étant abonné à The Economist, à Expresso par exemple, qui est la petite rubrique de The Economist tous les matins, de lire à la fois de l'anglais et d'apprendre des choses d'actualité. C'est un très très bon niveau. Eh bien, les étudiants dans ces trois sources, les cours de géopolitique, les cours de langue, les lectures personnelles, peuvent effectivement abonder leurs réflexions ou avoir des exemples tirés de l'actualité. Donc la question, c'est partant de ces sources, comment l'utiliser en dissertation ? Il faut être extrêmement précautionneux. Imaginons par exemple que dans quelques semaines donc les sujets vont tomber et que certains sujets puissent être abordés à travers une actualité brûlante. Je ne conseillerais pas, moi, à mes étudiants de commencer, par exemple, une dissertation en faisant une accroche sur le Venezuela, par exemple, ou les élections européennes, car entre le moment où ils composeront et le moment où ils seront corrigés, il peut se passer jusqu'à 4 semaines. Et si on est dans une période historique de très forte tension, l'accroche d'actualité rédigée le jour J du concours pourra sembler complètement passée 4 semaines plus tard. Aussi donc, l'actualité la plus brûlante doit être utilisée avec circonspection et peut-être avec parcimonie. Donc nous parlons là plutôt d'une actualité, par exemple, sur le cours de l'année ou d'évolutions qui sont en cours, disons, mais qui ne sont pas brûlantes. On peut tout à fait l'utiliser en accroche, bien sûr, car elle permettra d'accrocher à la fois le sujet et d'accrocher le lecteur en lui montrant cela. Néanmoins, et c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant des dimensions de la dissertation, l'histoire, la géographie, la géopolitique, l'histoire n'est pas d'actualité. La copie, quand le sujet appelle à réfléchir sur les 30, 40, voire même 50 ou 70 dernières années, ne peut pas, et on le voit trop souvent malheureusement, n'être abondé que par des exemples des 2 ou 3 dernières années. C'est un contresens. L'histoire, c'est une réinsertion dans le temps long pour comprendre le temps court, en quelque sorte. Donc, pour revenir à ça, l'actualité peut être utilisée en accroche, en ouverture, éventuellement quelques exemples dans la dissertation, mais la dissertation ne saurait être nourrie que d'exemples actuels. Je crois d'ailleurs que l'actualité, elle sert dans beaucoup de disciplines, en histoire, géographie, géopolitique bien sûr, en langue aussi, et aux oraux bien sûr, aux entretiens, car elle est de nature à abonder en quelque sorte la réflexion. Elle dénote aussi un certain esprit de curiosité chez le candidat qui est toujours bienvenu. Donc l'actualité avec parcimonie peut-être en histoire, géographie, au contraire, enfin peut-être sans modération pour se cultiver et approfondir à partir de questionnements actuels, d'actualité, l'inactualité peut-être du passé.
On va prendre maintenant un peu de hauteur pour conclure ce podcast avec une dernière question d'ordre plus général donc qui concerne les ultimes révisions, celles qui vont s'achever avec le début des concours écrits comme puis BCE. Alors de manière générale, quels sont vos conseils pour appréhender du mieux possible ces dernières révisions ?
Oui, alors Dimitri, vous me permettrez de répondre à la question peut-être en deux temps, en allant peut-être du général au particulier. Alors, puisque les révisions, c'est d'abord un état d'esprit général, bien sûr, avant de rentrer dans la géopolitique. Alors, un conseil général, je crois, c'est que, vous savez, il faut, je crois, quand on est en révision, se dire, quand on est un étudiant, une étudiante, se dire, lorsqu'on se couche le soir, il faudrait avoir en tête l'idée suivante, je n'aurais pas pu faire beaucoup plus aujourd'hui. Et donc pour ça, je crois qu'il faut avoir un rythme pendant les révisions presque monacal, c'est-à-dire se lever relativement tôt le matin et beaucoup travailler intensément, efficacement, en tout cas jusqu'à l'heure du déjeuner. Quand la matinée est ratée, psychologiquement, ça pèse sur l'ensemble de la journée. C'est donc très important et de faire des matières peut-être qui requièrent une grosse concentration le matin, par exemple, je pense aux mathématiques notamment. C'est un vrai rythme, au fond, un rythme dans lequel il faut rentrer pendant 2, 3, 4 semaines, un état d'esprit. Il faut dormir. Car la mémoire s'alimente par le sommeil. Nous avons trop d'élèves qui arrivent un peu épuisés aux écrits. Les écrits, c'est très physique, ça je le rappelle. Ce sont une quinzaine de jours dans lesquels il y a des épreuves presque tous les jours. C'est très très physique, on est moins frais. De même, par exemple, pendant les écrits, il est important de beaucoup travailler intensément pendant la première heure, heure et demie, dans laquelle on a toute sa disponibilité intellectuelle, pour qu'ensuite avoir fait le chemin de fer qui permettra dans les dissertations de poursuivre l'effort pendant l'ensemble du temps pour arriver aux fameuses 4 heures. Alors pour les révisions de géopolitique, je crois qu'il est important d'aller du général au particulier. Il ne s'agit pas de... On ne peut pas réviser au fond en prenant la base, en prenant des millions d'exemples. Il faut déjà peut-être avoir clair à l'esprit les plans des cours, des chapitres que l'on a appris, des chapitres du professeur, éventuellement de certains chapitres du livre, car on doit toujours penser en entonnoir, car c'est ainsi qu'est fait un paragraphe. On commence toujours d'une idée générale que l'on illustre par des exemples par particulier. Alors bien sûr, on peut avoir en tête des exemples qu'on a appris, des fiches exemples, mais pour les révisions, il importe d'avoir les grandes idées clés, car c'est à partir d'elles qu'on pourra construire un plan qui sera lumineux, qui sera clair. En général, j'ai tendance à dire que les trois parties du plan doivent être faits de clarté, un plan doit être très clair, il s'est passé ci pour telle raison, ce qui s'explique par pour telle raison, ce qui conduit à dans tel cas, grand 1, grand 2, grand 3 si l'on veut, clarté dans les parties, et puis finesse dans les sous-parties, avec évidemment des exemples qui peuvent parfois être tout à fait bien développés. Et c'est pour ça, dans les révisions, il faut donc alterner à la fois des révisions dans lesquelles on apprend bien des plans qui donnent une grande clarté sur les grands enjeux géopolitiques, et puis de l'autre côté, apprendre des exemples qui serviront à articuler. Il faut donc faire rentrer en quelque sorte la clé de l'idée générale dans la serrure de l'exemple. C'est ça qui évidemment débouche sur une bonne note. J'insiste à ce propos, puisque Dimitri, vous me parlez de la question des révisions. Pendant les révisions, donc les idées générales bien sûr, mais des fiches exemples, je le disais tout à l'heure, car, j'insiste dessus, nous lisons beaucoup de copies dans lesquelles il y a beaucoup de généralités à l'intérieur des paragraphes. Or, les excellentes copies sont des copies qui arrivent donc à bâtir un plan en trois parties extrêmement clair, parce qu'elles ont les idées claires, parce qu'elles ont appris des plans généraux, elles ont une hauteur sur les sujets, et qui arrivent dans le paragraphe à descendre parfois des exemples précis dans lesquels il y a, dans notre discipline en particulier, des dates, des noms d'hommes politiques, de femmes politiques, d'entreprises, des chiffres de PIB, de croissance, ou de chiffre d'affaires, ou, je ne sais pas, malheureusement, de bilan macabre de guerre ou d'événements politiques, bien sûr. Encore une fois, et c'est la force des grandes copies, elles arrivent à articuler le général dans leur approche et le particulier.
Eh bien voilà qui a le mérite d'être clair. Un grand merci à vous, donc Frédéric Munier, je le rappelle, professeur affilié à Schema Business School et également donc professeur à Saint-Louis. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast en partenariat avec Schema Business School. Merci à vous.